Ce matin, je veux vous parler d'un autre roi de Juda qui s'appelle Joas. Joas, son nom signifie l'Éternel donne. Un chiffre qu'il faut retenir quand on parle de Joas, c'est le nombre 40. 40 veut dire 40 ans de règne. Et il a commencé à régner à l'âge de 7 ans. En l'an 836 jusqu'en l'an 796 avant Jésus-Christ. Et donc la vie de Joas illustre ce que j'appelle les dangers de vouloir plaire aux hommes. C'est un peu le titre que je donnerai à ce message ce matin. Le danger, les dangers de plaire aux hommes. Et j'aimerais tirer quelques enseignements de l'expérience de la vie du roi Josias et regarder trois périodes de sa vie. D'abord, avant son intronisation pour être roi. Après, pendant son règne, il y a un homme qui a joué beaucoup dans sa vie, le prophète Jéhojada, Jéhoiada aussi dans d'autres versions. Et surtout, regardez son règne en présence de ce sacrificateur et son règne sans la présence de ce sacrificateur. Donc, retenons la vie de Joas en trois points avant son intronisation. Son règne en présence du sacrificateur, Jéhoiada, et son règne sans la présence du sacrificateur, Jéhoiada. Sans tarder, regardons deux passages. Je vous invite à regarder dans 2 Rois chapitre 11, versets 1 et 2. 2 Rois chapitre 11, versets 1 et 2. Et après, le même passage, relaté dans 2 Chroniques 22, 10 à 11. 2 Rois chapitre 22, verset 1, je dirais à 3. 1 à 3. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fait mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Même passage, relaté sous un angle de vue avec, ici dans 2 Chroniques 22, versets 10 à 12. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabiat, fille du roi, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi Joshabiat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhoiada et sœur d'Akazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Résumons ce que nous venons de lire. Donc, Athalie, pour retenir ce nom, grand-mère de Joas, vient de perdre son fils Akazia. Vous savez qu'Athalie était une femme particulièrement méchante. En effet, la mort de son fils lui fournit un prétexte pour se faire reine. Et pour que personne ne puisse par la suite contester sa prise du pouvoir, elle extermina tous les fils d'Akazia, à l'exception de qui? Qui est le jeune roi qui est excepté de mort, d'après ce que nous lisons? Joas. À l'exception de jeune Joas, qui à l'époque était qu'un nourrisson, moins d'un an. Comment Joas a-t-il pu échapper à la mort, d'après ce que nous venons de lire? Oui, sa vie était épargnée lorsqu'il était encore au berceau, quand la cruelle Athalie mit à mort toute la race royale. Et donc, Joas seul a échappé au massacre, et qui est-ce qui l'a sauvé? C'est sa tante, Josheba ou Joshabiat. Et cette femme, de Chronique 22, verset 10 à 12, nous précise un peu plus, c'est la femme du sacrificateur Jehoiada. Retenez bien, Josheba, qui est femme du sacrificateur Jehoiada, qu'on peut dire sa mère adoptive, qu'il avait caché dans la maison de l'Éternel pendant 6 ans. Quelque chose qui m'a troublé. Par ailleurs, nous pouvons lire que Joas avait, et sa mère maternelle est vivante. Et le texte, les deux passages, nous indiquent que ce n'est pas sa mère maternelle qui s'occupait de lui, mais c'est Josheba, femme du sacrificateur Jehoiada, sa mère adoptive. Donc tout cela, ils l'ont caché pendant 6 ans pour éviter le regard inquisiteur de la reine mère. Et donc Joas ne sortit pas du temple, restait dans le temple. Quelque chose qui est frappant, c'est que son père adoptif, donc le sacrificateur, va préparer son intronisation. Il faut 6 ans de préparation, si je peux dire ainsi. Regardez dans votre Bible, parce que ici dans 2 Rois 11, juste le verset 4, la 7e année, Jehoiada, donc le sacrificateur, envoya chercher les chefs de centaines, des Kérétiens et des coureurs, et les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi, c'est-à-dire Joas. Et dans 2 Chroniques 23, notez le verset 7, 2 Chroniques 23, verset 7, et puis verset 9 à 11, nous lisons ceci, « Les Lévites entoureront le roi de toutes parts, » on parle du roi Joas, le petit maintenant, 7 ans, « chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. » Et nous lisons verset 9, le sacrificateur Jehoiada remit aux chefs de centaines les lances, les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Et au verset 11, on fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, on l'établit roi. Et Jehoiada et ses fils loignirent et ils dirent, vive le roi Joas. Résumons un peu la situation avec ce passage que je viens de vous dire. Donc, quand l'enfant fut âgé de 7 ans, le roi, le Joas, Jehoiada, donc le sacrificateur, mit dans le secret 5 chefs auxquels il fit voir pour la première fois l'héritier légal du trône, c'est-à-dire Joas, qui était abrité, caché dans le temple pendant 6 ans. Maintenant, il le mit à connaissance que c'est lui qui a le droit légal de régner. Alors, Jehoiada équipa ensuite les 500 hommes sous le commandement de ses chefs, en leur remettant des armes et des boucliers, pris dans le temple, nous venons de lire, il ordonna de se tenir autour de Joas lors de son couronnement dans la cour du temple. Et vous l'avez vu, que quiconque tenterait d'empêcher le déroulement de la cérémonie devait être mis à mort. Et suite à cela, après son intronisation, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 11, continuons un peu la lecture, verset 13, Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple lors de l'intronisation que nous venons d'en parler, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade. On parle de Joas maintenant, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi, tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria « Conspiration, conspiration !» Verset 15, alors le sacrificateur Jehoiada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée, faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi, en dehors du temple, par le chemin de l'entrée des chevaux, et c'est là qu'elle fut tuée. Vous voyez ? Ayant entendu les cris du peuple, Athali accourut en criant « Conspiration, conspiration !» Et on la fit promptement sortir et on l'a mis à mort à l'entrée de la porte des chevaux. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui de cette histoire si lointaine ? Retenons et focalisons le projecteur ou le focus sur Jéhoada. Joas, que c'est un. Ce qui me frappe en lisant, en méditant sur ce texte, c'est que Jéhoada et son épouse Josheba ont risqué leur vie pour cacher le bébé royal durant 6 ans. Tu me demandes, est-ce que c'est pas pour ça que la maman était une inconnue ou se cachait ne pas se faire connaître? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est que ce couple courageux, Jéhoada le sacrificateur et son épouse Josheba, ont risqué leur vie pour cacher le bébé durant 6 ans. Et il lui servit de parents. Deuxième chose qui m'a marqué aussi, c'est que Jéhoada a mis en place un plan pour renverser la reine usurpatrice Athali. Vous voyez tout ce qui était la stratégie à mettre en place pour éliminer la reine Athali qui a usurpé le trône. Qui voulait éliminer tous les fils de la lignée royale et elle s'est mise à la place. Vous savez, je vois dans Jéhoada son attitude envers Joas, un mentor spirituel. Je vois en lui quelqu'un qui veut aider Joas à grandir, à devenir le roi légitime pour le peuple de Juda. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'il n'a pas, il ne s'est pas soucié de sa vie, ni du risque qu'il prend pour pouvoir faire grandir ce petit roi Joas. Il y a un exemple frappant pour nous ici. Avez-vous le courage? Accepterez-vous de sortir de votre zone de confort pour être une sorte de mentor, de coach pour un de vos frères ou de votre sœur ici dans l'Assemblée pour l'aider à grandir dans la voie du Seigneur? C'est la leçon que je vois ici. Il n'a pas calculé le risque. La reine Natalia est méchante, cruelle. Et malgré cela, ils ont pris le risque d'élever cet enfant, sachant que la volonté de Dieu qu'il soit roi. Et donc, une leçon importante, nous sommes appelés à être celui qui forme un disciple de Christ dans l'Assemblée, pour aider l'autre à grandir, à suivre le Seigneur, à marcher dans la voie du Seigneur. Ça demande du temps, ça demande de notre énergie, ça demande de l'essence, peut-être qu'il faut se déplacer, ça demande beaucoup de choses. Mais nous sommes prêts à payer ce prix pour voir un autre grandir pour le Seigneur. J'aime beaucoup ce que Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste était le précurseur pour ouvrir la voie au Seigneur Jésus. Mais à un moment, les choses étaient accomplies ainsi. Jean-Baptiste dit, il faut que j'aie diminué, il faut qu'il passe. À un moment, Jésus c'est le devant de la scène, parce que c'est lui qui est venu pour être le Messie. Et Jean-Baptiste est reculé. On a besoin de cet esprit, d'aider nos frères, d'aider, de donner de notre temps, à l'encourager, à le tenir, à l'enseigner, à l'aider à ce qu'il puisse marcher et grandir dans le Seigneur. Et c'est cela l'enseignement qui est ici. Et ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de notre énergie, ça demande des prières. Êtes-vous prêts à faire cela? C'est ce que nous est laissé dans cet exemple de ce couple merveilleux, je trouve. Regardons maintenant Joas. pris, prends la reine, le règne, et maintenant on regarde surtout le petit préfixe, son règne, en présence du sacrificateur Jehoada, qui a tout fait le nécessaire pour éliminer Athalie et pour qu'il puisse prendre le règne légitime. Et donc en tant que, je dirais, un homme spirituel, en tant que coach et mentor, vous voyez que non seulement Jehoada a préparé pour qu'il puisse prendre le règne, non seulement qu'il a aidé sa femme Josheba à la faire grandir, à nourrir, mais maintenant, il va prendre encore l'initiative d'amener Joas à faire un travail de grande ampleur. Et nous lisons dans 2 Rois chapitre 12 verset 2 ce que va faire Jehoada. Il va conclure une alliance de fidélité entre l'Éternel et le peuple et le roi qui vient d'être intronisé. Nous lisons dans 2 Rois 12 verset 2: Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jehoada. Tout le temps qu'il suivit les directives du sacrificateur Jehoada. Vous voyez bien, le maître et le disciple, il suit. Et 2 Chroniques 24, versets 2 et 3, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jehoada. Jehoada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles, et après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Magnifique. Ici donc, mettons bien les choses en place pour que ça soit clair. Le jeune roi, Joas maintenant, marche avec l'aide du sacrificateur Jehoada qui lui conseille, qui lui aide et qui fait le nécessaire pour que les choses marchent. Donc il a conclu une alliance de fidélité entre l'Éternel, le peuple et le roi lui-même, et le roi s'est engagé. Et le sacrificateur Jehoada, comme son père spirituel, son conseiller. Donc, magnifique. Vous savez, par ailleurs, il est marié à 21 ans. Et c'est Jehoada qui a fait le nécessaire pour lui trouver 2 épouses. C'est incroyable. Sa femme, Josheba, s'est occupée de lui depuis 1 an jusqu'à 6 ans. Jehoada était à côté. Jehoada prépare l'intronisation. Une fois qu'il est prend le pouvoir, il lui conseille les mesures spirituelles importantes à mettre en place. Il lui trouve même les femmes dont il a besoin. Et nous lisons, Joas engendra des fils et des filles. C'est des petits détails, mais qui a son sens. Quand nous venons de mettre dans le contexte que tous les fils de la lignée royale étaient décimés. Il ne faut pas oublier ça. Et après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Donc, de cette manière qu'il a eu, engendra des fils et des filles, la lignée de David conduisant au Messie fut de nouveau affermie après avoir été près de s'éteindre. Et oui, parce qu'Athalie avait tout décimé, il lui restait le petit Joas. Regardez la providence de Dieu et comment Dieu dirige les choses pour cet enfant qui est là et qui prend le règne grâce à la providence de Dieu en utilisant le sacrificateur Jehoada qui a accepté d'être la réponse à cette situation. Et Joas va agir tout le temps que Jehoada était là, le sacrificateur. Donc qu'est-ce qu'il a pris comme mesure maintenant? Il va réparer la maison de l'Éternel. J'imagine bien que la maison de l'Éternel avait grandement besoin d'être réparée parce qu'elle a été négligée, elle a été pillée pendant le règne d'Athalie. Et donc, non seulement il réparait la maison de l'Éternel, mais nous lisons ailleurs, je vous conseille de le lire, dans 2 Rois 11, versets 13 à 20, il faut lire à la maison, et dans 2 Chroniques 23, 12 à 21, il a pris d'autres mesures. Il va démolir les maisons des Baal. Il va briser les autels de Baal, les images, les statuettes. Ils tuèrent même le prêtre de Baal, Matan. Je vous conseille de lire tout ça, si vous voulez connaître bien l'histoire de Rois 11, 13 à 20 et de Chroniques 23, 12 à 21. Et ce n'est pas fini, la réforme. Il va encore, Josué va presser les Lévites de réunir l'argent nécessaire aux réparations en allant de ville en ville dans tout Juda, parce que la maison de l'Éternel, le temple a été pillé, je ne dis pas détruite, mais dans un mauvais état. Et donc maintenant il faut de l'argent, de l'or pour tout réparer, mettre les choses dans l'ordre. Et je vous invite maintenant de lire 2 Chroniques 24, versets 4 à 5. Vous voyez la mesure? Il a pris à cœur de réparer la maison de l'Éternel. Il a détruit Baal, les statues, les lieux et tout ça. Et maintenant, ce n'est pas fini. Pour réparer la maison de l'Éternel, il faut lever les fonds, il faut lever tout ce qui est nécessaire pour faire le travail. Et nous lisons dans 2 Chroniques 24, 4 à 5. Après cela, Joas eut la force de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites. Il leur dit, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Retenez, parce que je veux revenir dans si peu de temps. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les lévites ne se hâtèrent point. Mettez à cette affaire de l'empressement, mais les lévites ne se hâtèrent point. Ici, j'attire votre attention sur ce verset 5. Joas a eu à cœur de restaurer la maison de l'Éternel. Il a pris l'initiative d'assembler les sacrificateurs et les lévites. C'est normal, parce que c'est eux qui travaillent pour la maison de l'Éternel. C'est leur job, entre guillemets. Il dit, il faut faire vite, hein, on n'a pas de temps à perdre. Et nous lisons, il dit, hâtez cette affaire, ouf. Mettez à cette affaire de l'empressement, mais les lévites ne la hâtèrent point. Quelque chose qui me frappe quand j'étudie le texte, c'est que c'est très beau de voir en Joas ce zèle pour réparer la maison de l'Éternel. Mais combien je suis triste de voir que ceux qui étaient destinés à travailler pour la maison de l'Éternel, les sacrificateurs et les lévites, ce n'est pas leur souci. Ils ne la se hâtèrent pas. C'est curieux, hein, quand même. C'est triste. Hein. Les lévites, hein, qui travaillent là chaque jour, les sacrificateurs, eux, pas autant d'énergie ni de zèle pour réparer la maison de Dieu. C'est ce que nous lisons. Quelle est la deuxième leçon pour nous dans ce passage? Oui, pour nous, en tant que croyants, notre position aussi, nous sommes sacrificateurs devant Dieu. C'est l'appel, je dirais, la plus élevée dans la vie du chrétien, son rôle de sacrificateur. N'oubliez pas, le sacrificateur vient de présenter à Dieu les besoins du peuple. Le sacrificateur vient présenter à Dieu les besoins du peuple. Et je profite à dire, le prophète, par contre, il parle de la part de Dieu pour le peuple. Retenez bien, les prophètes parlent de la part de Dieu pour les hommes. Et les sacrificateurs parlent à Dieu de la part ou pour les hommes. Et ici donc, eux, ces sacrificateurs, c'est les lévites? Non, ça ne les intéresse pas. Je répète donc, pour nous en tant que croyants, nous avons la position la plus élevée, hein, d'être sacrificateur, d'être un adorateur, hein, pour Dieu. Et Dieu en cherche de tels, hein, adorateurs, de tels sacrificateurs aujourd'hui. Vous, si vous êtes en Jésus-Christ, vous l'êtes. Dieu vous l'a fait devenir en Jésus-Christ. Mais la question que se pose ce texte, est-ce que vous avez à cœur la maison de l'Éternel? Est-ce que vous êtes comme Joas, qui s'arrache les cheveux pour solliciter, pour encourager tout le peuple à dire, on y va! Faisons quelque chose pour la maison de Dieu! Ou est-ce que vous êtes comme les sacrificateurs? Je viens tous les dimanches, le matin, je finis, je suis prêt, je salue les uns les autres, super, très bien. À dimanche prochain. Est-ce que vous êtes comme les sacrificateurs comme ça? Vous passez juste dans la maison de Dieu? Ou est-ce que vous êtes celui ou celle qui œuvre, qui s'arrache les cheveux, qui fait tout pour que la maison de Dieu soit réparée, pour que le culte de Dieu continue? Ça, c'est l'appel que je vois dans ce passage. Oui, Jésus, quand il était sur terre, a chéri la maison de son Dieu. Et combien il était en colère quand on fait une caverne de voleurs la maison de son Père. Vous voyez, Jésus a à cœur la maison de son Père. Il s'est donné pour la maison de son Père. Est-ce que nous aimons la maison de Dieu comme Jésus l'aime? Qu'est-ce que vous faites pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour les frères et sœurs qui viennent ici? Ça, c'est la question que pose le passage. La leçon, ne faisons pas comme les Lévites, qui ne se hâtèrent point, qui s'en fichent, excusez-moi de l'expression, entre guillemets. Mais Joas montre l'exemple, c'est là qu'il faut y aller. Se donner, s'arracher les cheveux, se donner de la peine pour le peuple de Dieu, pour la maison de Dieu. Et vous savez, la Bible nous donne un exemple de cela. Je vous donne juste deux exemples de deux hommes dans le Nouveau Testament qui avaient des soucis pour la maison de Dieu. Regardez avec moi 2 Corinthiens 11, 28. 2 Corinthiens 11, 28, il y a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, nous lisons à son sujet dans 2 Corinthiens 11, 28, quelqu'un qui avait de la sollicitude pour les assemblées, qui était toujours intéressé de savoir ce qui s'est passé et comment il pouvait aider les assemblées. 2 Corinthiens 11, 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est le cœur de Jésus. Assiégé par le souci que me donnent les églises. Toutes les églises. Un autre exemple, Timothée aussi. Nous lisons dans Philippiens 2, 20. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. C'est Paul qui écrit. Nos hommes ici dans l'église pendant une année ont prêché sur l'épître aux Philippiens. Et nous savons d'après ces prédications que Paul est en prison à Rome. Et ici nous lisons, Paul parle. Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation, vous, entre parenthèses, chrétiens de Philippe. Est-ce que vous avez la sollicitude pour le peuple de Dieu, pour la maison de Dieu, de prendre à cœur la situation de chacun? Ça, c'est l'appel. Ce n'est pas au pasteur uniquement de faire ça. C'est aux uns, aux autres. Et ça, c'est l'appel du Seigneur pour nous à travers cet exemple que je vois. Oui, je ne dis pas que la maison de Dieu ici à Pessac, elle est en ruine. Non. Mais elle a besoin de réparation. Elle a besoin que les âmes s'investissent. On a besoin que les chrétiens grandissent et prennent en charge aussi les fardeaux les uns des autres. Oui, quand on veut réparer la maison de Dieu, ça veut dire qu'il y a des aspects doctrinaux. Est-ce qu'on enseigne la parole de Dieu telle qu'elle doit être et que les choses sont en ordre dans cette église? Je l'espère, si les yeux du Seigneur, comme elle a jugé l'église dans l'Apocalypse de cette église, j'espère qu'il ne dira pas « Vous avez abandonné la vérité au profit des mensonges. Vous ne prêchez plus la sainte doctrine. » J'espère, Seigneur, qu'on ne sera jamais là, ici. J'espère, Seigneur. Mais ça touche aussi un aspect, je dirais, pratique. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu chaque fois que nous l'entendons? Ou est-ce que ça rentre là et ça sort là? Comme si nous étions rentrés là et on sortait là. On est devenu pareil. J'espère, Seigneur, qu'ici, vous n'êtes pas, que je ne suis pas comme ça. Oui, nous avons besoin de marcher humblement avec Dieu et d'apprendre à faire du bien au peuple de Dieu comme le Seigneur le voudrait. Oui, que le Seigneur nous donne à chacun de mettre au service de sa maison l'énergie qu'il faut pour prendre soin de sa maison, parce qu'il veut que nous ayons à cœur la maison de notre Seigneur. Ne faisons pas comme les sacrificateurs, les Lévites, qui continuent à adorer d'un formalisme religieux de l'extérieur, mais leur cœur est éloigné petit à petit, loin de Dieu. Je vais terminer par troisième point, le règne de Joas maintenant, quand Jéhoada, le sacrificateur, n'est plus là. Son règne sans la présence de Jéhoada. Nous lisons le passage dans 2 Chroniques 24, versets 17 à 22. Écoutez bien, j'ai mis les mots-clés soulignés sur le PowerPoint et lisons ensemble. Nous sommes dans un tournant dans la vie de Joas maintenant, son mentor n'est plus là. Après la mort de Jéhoada, verset 17, après la mort de Jéhoada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi, on parle du roi Joas, alors le roi les écouta. Retenez ça, on va y revenir. Alors le roi les écouta. Suite, et ils abandonnèrent. Qui le « ils » Le roi Joas et les chefs. Au pluriel ici. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Quoi? Mais on vient de réparer la maison de l'Éternel. Quoi? Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les absatés, les idoles. Quoi? Mais Joas avait tout détruit. Et on recommence comme si de rien n'était. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Entre parenthèses, souvent on dit le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Vous voyez? Bel enseignement, qui sont les prophètes? Les prophètes ne font qu'utiliser ce que Dieu a déjà dit et les rappeler tout simplement. Vous voyez? Ils enseignent, ils proclament, ils rappellent ce qui était déjà écrit pour que les gens viennent à Dieu. Ça, c'est les prophètes. Oui, à un moment, il y a un petit aspect de dire l'avenir, mais le prophète, celui qui ramène le peuple à Dieu. Fini la parenthèse. Je reviens verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. Verset 20. Zacharie, attention, c'est pas le Zacharie qui va venir après le retour de l'exil de Babylone, 70 ans de Babylone. C'est pas le même Zacharie. Vous voyez, dans la Bible, il y a 27 Zacharie. Donc, pour l'ancien et le Nouveau Testament. Donc, il faut faire gaffe à ce que nous lisons et dans quel contexte on ne parle pas de la même personne. Donc, ici, Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi par Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel et vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Regardez, la réaction ne fait pas tarder. Verset 21, ils conspirèrent contre lui, contre Zacharie et le lapidaire par ordre du roi. Quel roi? Joas. Je ne reconnais plus Joas. Dans le parvis de la maison de l'Éternel. Verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoada. Vous voyez le cœur? Il montre mon cœur quand je lis ça. Combien j'ai reçu de tant de bonnes choses? J'oublie même tout cela comme si de rien n'était. Attention à notre cœur, si oublieux facilement des bénédictions de Dieu, de la part des bienfaits de nos frères et sœurs, et comme si de rien n'était. Et c'est ce qui lui arrive. L'exemple ici, le roi Joas ne se souvient même pas de la bienveillance qu'avait eu pour lui Jéhoada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Vous voyez? Zacharie dit en mourant que l'Éternel voit et qu'il fasse justice. Verset 23. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple. Ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. Et l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Et cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable, c'est-à-dire l'armée de Joas, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, et les Syriens firent justice de Joas. Résumons vite la situation. Jéhoada, donc, le sacrificateur, meurt à l'âge de 130 ans. Et qu'est-ce que nous lisons après sa mort? Les chefs du peuple sont venus s'incliner, se prosterner devant Joas. Le verset 17. Et Joas les a écoutés. C'est ce que nous lisons. Qu'est-ce qui en résulte? Un abandon de la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qui en résulte? L'idolâtrie. Et Dieu ne laisse pas impuni de tels actes. Dieu, par miséricorde, a envoyé le prophète Zacharie pour avertir Joas de ne pas faire cela. mieux le dégoûter, on a conspiré contre Zacharie et sur la parole du roi Joas, on l'a mis à mort. Terrible, terrible. C'est même pas souvenu de ce café, des bénédictions qu'a fait cette personne pour lui auparavant. Et Dieu ne laisse pas impuni. Quand le peuple est dans l'idolâtrie, Dieu envoie un peuple pour les punir. Ici, les Syriens, il en est résulté que la Syrie est venue contre Joas et que Joas a été obligé d'abandonner, de donner tous les trésors de la maison du roi et de la maison de l'Éternel à Hazaël, roi de Syrie. Je voudrais juste que vous écoutiez et vous le notez pour vous, 2 Rois 12, verset 18. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Akazia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, même lui, Joas, tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Et vous savez, quelques années plus tard, nous lisons, dans le passage ici, que des troupes, une petite troupe sont venues et ils ont mis à mort tous les chefs de Juda. Et on a conspiré contre lui, et deux de ses serviteurs l'ont mis à mort. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette troisième partie dans la vie de Joas? Je reviens sur le verset 17. Après la mort de Jéhojada ou Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent et s'inclinèrent devant le roi Joas, et alors le roi les écouta. Qu'est-ce que ça veut dire? Joas veut plaire aux chefs de Juda, il les écoute et le cœur sont rapidement manifestés. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit manifester? Il abandonne la maison de l'Éternel. Pourtant, c'est lui qui était à l'initiative de réparer la maison de l'Éternel, de secouer les sacrificateurs, les Lévites, aller dans tous les villages pour récolter l'or et l'argent. Et regardez ce qu'il fait maintenant. Il abandonne la maison de l'Éternel. On se tourne vers l'idolâtrie. Et même jusqu'au meurtre. On voit que Joas a vraiment chuté très bas, très bas. Et oui, c'est toujours le chemin par lequel on va prendre quand on va abandonner l'Éternel et quand on fait du compromis dans notre cœur avec le monde. C'est ça, la leçon. La troisième leçon pour nous ici, c'est qu'il faut craindre Dieu et chercher sa faveur et non pas celle des hommes. Joas a écouté les chefs. Il a suivi implicitement ce que désiraient ses chefs. Il a abandonné l'Éternel à cause d'un compromis. Il les a écoutés. Vous voyez, l'apôtre Paul, un grand défenseur de l'évangile de Jésus-Christ, a dit ceci. En Galates chapitre 1, verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Vous voyez, l'apôtre Paul donne un principe. C'est impossible de plaire aux hommes d'une part et de plaire à Dieu de l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que normalement, ce que Dieu demande, ce n'est pas ce que naturellement les hommes recherche. Donc c'est impossible. Que Dieu vous protège dans votre travail. Que Dieu vous protège dans le cadre de votre famille. Que Dieu vous protège là où vous êtes du compromis commis avec le monde. Ça commence par une petite chose. Vous ne savez pas où mène la fin de cette chose. Oui, la vie de Joas nous apprend trois choses. Retenez. Joas était béni par la présence de Jéhoiada. Juste, Joas que nous visons, mais Joas était béni. Qui parmi nous ici n'était pas béni de Dieu? Je ne parle pas seulement des bénédictions matérielles. Qui parmi vous ici n'a pas reçu des bénédictions de Dieu dans sa parole, dans les cantiques, dans les communions fraternelles, dans l'enseignement que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous êtes aussi comme Jéhoiada et Josheba, prêt à sacrifier de votre vie, un peu de votre vie, pour la maison du Seigneur? pour préserver, pour encourager un soeur, une soeur ou un frère à avancer dans la foi. Est-ce que vous êtes prêt à être une réponse pour cela? Vous dites, je viens pour le dimanche, ça me suffit, et je rentre chez moi. Oh, vous vous trompez. Vous ratez beaucoup de bénédictions. Deuxième chose que j'apprends, Joas a eu à cœur la maison de Dieu. Eh oui. Une période de sa vie, quand Jéhoada était là, il a eu à cœur la maison de Dieu. Avez-vous à cœur aussi comme le Seigneur Jésus de sa maison? Avez-vous à cœur les croyants qui sont dans ce lieu? Prenez-vous un peu de temps pour eux. Priez-vous pour eux. Le contactez-vous juste pour avoir un peu de ses nouvelles. Rendez-vous lui des visites. Et c'est de cela que nous sommes. Nous voulons encourager les uns et les autres à aimer la maison du Seigneur, à aimer le peuple du Seigneur, à chérir le peuple du Seigneur. Nous sommes souvent très critiques envers les autres. Mais au contraire, regardons le bien que Dieu a fait dans la vie de ces personnes. On a besoin de les encourager. On a besoin de cela dans cette église. Regardez, Joas a cherché la faveur des hommes, mais où est-ce que ça l'a amené? Chers frères et sœurs, cherchez à vivre dans la crainte de Dieu et non celle des hommes. Et je m'adresse à vous les jeunes, des petits que vous êtes. Cherchez à craindre Dieu et non pas les hommes. Qu'est-ce que je sais bien? Combien c'est difficile pour les jeunes, et même pour moi adulte, hein, d'être rejeté par les autres. Hein. On a envie de leur ressembler, de faire l'intéressé pour être accepté. Je sais, je sais. Et cette tentation, je l'ai aussi cherchée. Je refuse, parce que je préfère craindre à Dieu au prix du rejet que d'accepter le compromis qui m'amène loin de Dieu.